You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Grève de grande ampleur à Paris. Près de 400 km de bouchons autour de la capitale. Les personnels de la RATP protestaient contre la réforme des retraites. Incendie toujours dans le Queensland, même s'il y a une accalmie. La semaine prochaine s'annonce difficile. Et en France encore, les époux Balkany condamnés à de la prison pour fraude fiscale. On débute ce journal donc en France, à Paris notamment, où 10 lignes de métro étaient fermées hier. En banlieue, le trafic des RER était également très fortement perturbé. Conséquence, près de 380 km de bouchons dans la capitale après un mouvement de grève de la RATP pour protester contre la réforme des retraites annoncée. Prise de température avec Simon Roset à la Gare du Nord à Paris.
Un trajet Saint-Denis-Gare Montparnasse, c'est simple, direct, la ligne 13 du métro. Sauf qu'aujourd'hui ça ne marche pas, il y a grève, du coup on s'adapte.
Ce matin en vélo.
Et là ce matin c'était sûr vous alliez prendre le vélo là ?
Ah bah oui. Ouais. Heureusement qu'il pleut pas.
Devant la gare du Nord, même si ça joue des coudes à l'entrée des quelques bus qui passent, l'ambiance est plutôt calme. Les gens ont anticipé les difficultés et adapté leur trajet.
Je trouve un autre plan de rechange qui est le bus 46, qui est un bus qui est en bas de chez moi et qui va à gare du Nord. Ah bah. Alors c'est génial, sauf qu'il a mis plus d'une heure à cause des bouchons. Bon, donc j'ai raté le train que je voulais prendre à 8h04, mais bon... Je prends le train de 9h07 et c'est formidable, j'ai eu le temps d'acheter le journal, de boire un café, ce que j'ai pas toujours le temps de faire d'habitude.
Mais tout le monde ne prend pas les choses avec autant de sourire que cette dame. Celle-ci va devoir finir son trajet à pied et elle en veut aux grévistes.
Les transports, je les prends tous les jours et je suis même plutôt assez en colère parce que c'est toujours les usagers qui sont bloqués. Et non, je la comprends pas et c'est très bien que le gouvernement fasse... des réformes.
Cette réforme des retraites qui va continuer à mobiliser contre elle, les syndicats ont déjà prévenu que cette journée de grève n'était que le premier coup de semonce.
Et c'était Simon Roset pour RFI. En Australie maintenant, bien que les conditions des incendies se soient améliorées dans l'État, les habitants du Queensland sont avertis que tout cela pourrait changer à n'importe quel moment, simplement si le vent se levait. Les températures plus élevées sont attendues la semaine prochaine également. Des pompiers d'autres États d'Australie ainsi que de Nouvelle-Zélande sont arrivés pour aider les troupes du Queensland. Deux des incendies les plus graves se sont produits à Saraba, à l'ouest de la Gold Coast, et à Perigian, donc sur la Sunshine Coast. On écoute un porte-parole de la police du Queensland qui a déclaré que les habitants de la région devaient continuer à faire preuve de vigilance.
It's very good that people are being very vigilant, listening to the warnings and the alerts that are going out and maintaining awareness of what the situation is. For us, the police on the ground, it's following the lead of the fire command and providing that assistance to do road closures when required. We do urge people to maintain that vigilance, even tourists if you're out this way, to be aware of what's occurring and to ensure that your actions, you're not going to put yourself in a place of danger.
Voilà donc pour la situation dans le Queensland. Direction les Bahamas maintenant, une nouvelle tempête tropicale s'approche des côtes alors que 1300 personnes ne sont toujours pas localisées dans l'archipel après le passage de l'ouragan Dorian. Le bilan officiel fait état de 50 morts, mais bien entendu on redoute le pire par rapport à ces personnes disparues. 10 000 enfants ont été déplacés et à l'approche donc de cette nouvelle tempête, les autorités et les ONG tentent un petit peu de redonner vie à la normalité. Malgré tout, comme nous l'explique Dominique Perron sur place aux Bahamas.
Aucun enfant ne doit courir le risque d'abandonner l'école à cause de Dorian, a déclaré le ministre de l'Éducation aujourd'hui. La rentrée des classes avait déjà été décalée d'une semaine en prévision de l'arrivée de l'ouragan et voilà maintenant plus de deux semaines que les enfants sinistrés auraient dû reprendre le chemin de l'école. Il s'agit désormais d'une priorité pour le gouvernement de trouver des places dans les écoles à 10 000 petits Bahaméens. Avec l'aide de l'UNICEF, les élèves vont être inscrits dans les écoles publiques de New Providence et toucheront une aide financière pour le rachat d'uniformes et l'aide au déjeuner. Ils recevront également un soutien psychologique absolument nécessaire pour Bernd Hassen, directeur régional de l'UNICEF, selon lequel de nombreux élèves ont été témoins de scènes horribles de destruction totale, de souffrance et même de la perte de leurs parents. D'ailleurs, les orphelinats de la capitale ont doublé leur capacité d'accueil et font appel aux dons car ces établissements sont privés et nécessitent désormais de nombreux personnels pour répondre répondre aux besoins des enfants déplacés qui sont parmi les dizaines de milliers de personnes sinistrées et rescapées de l'ouragan Dorian.
Voilà, c'était Dominique Perron, donc aux Bahamas pour RFI. Le gouvernement irlandais a déclaré qu'il n'avait pas encore entendu parler d'aucun autre accord du gouvernement britannique sur l'un des aspects les plus controversés du Brexit, le prétendu backstop. Le backstop, c'est l'arrangement visant à empêcher une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, alors que le Royaume-Uni donc quittera normalement, en tout cas, l'Union européenne. On ne sait pas encore trop la date, mais probablement à partir du 31 octobre, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Convey, a déclaré que l'absence d'une proposition écrite de substitution à ce backstop est une source de frustration pour l'Union européenne. D'après lui, c'est au gouvernement britannique de proposer une autre solution s'il veut une alternative donc à ce backstop. On l'écoute.
We don't have detail of proposals that have come forward from the British government. So the next step here has got to be that the British government has to bring forward real proposals in writing that can do the job that the backstop does if they're proposing an alternative.
Voilà donc le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, sera enterré dans environ 30 jours. Ça se passera dans un monument dédié aux héros nationaux dans la capitale, Harare. C'est ce qu'a annoncé en tout cas sa famille, la porte-parole de sa famille. Alors, petit imbroglio, jeudi, la famille avait déclaré que l'ancien président, dont le corps avait été rapatrié mercredi depuis Singapour, serait enterré dans une cérémonie privée dans sa ville natale. Mais hier, donc, le porte-parole de la famille, Leo Mugabe, a déclaré qu'il avait décidé que le défunt serait enterré à Heroes Acres, qui est un endroit traditionnel pour les chefs d'État du Zimbabwe, et ce, après des consultations avec les chefs influents, les chefs traditionnels influents. Mais pour l'homme de la rue, cela ne semble pas être une grande préoccupation, en tout cas pas une préoccupation majeure. On écoute une série de commentaires depuis Harare.
Honnêtement, on s'en fiche. Vraiment, on s'en fiche. Ça n'intéresse que les hommes politiques qui ont peur d'être humiliés. Mais nous, les citoyens ordinaires, on s'en fiche. On veut juste qu'ils se dépêchent et qu'on en finisse.
Je pense qu'il mérite d'être enterré dans le cimetière des héros parce que c'est lui qui est à l'origine de ce monument. Oui, il est devenu controversé vers la fin, mais il mérite d'y être enterré. C'est tout de même le père fondateur de ce pays. Le Zimbabwe ne serait pas ce qu'il est sans lui.
En réalité, nous sommes plus préoccupés par l'argent qu'ils sont en train de gaspiller pour ces funérailles. Parce que je suis sûr que c'est l'argent du pays qu'ils utilisent. Et ça en représente beaucoup. Or, je suis convaincu que sa famille a suffisamment d'argent pour payer elle-même son enterrement.
Voilà donc quelques réactions à Harare, donc la capitale du Zimbabwe. Direction le Kenya maintenant, les autorités sanitaires ont commencé à administrer des doses du seul vaccin antipaludique autorisé. Le Kenya est le troisième pays d'Afrique à introduire le vaccin après Malawi et le Ghana. Il est administré aux jeunes enfants des zones rurales donc du Kenya où le taux de transmission du paludisme est très élevé. Le docteur Marie Hamel est chercheuse sur le paludisme. Elle dit que le vaccin sauvera des dizaines de milliers de vies. Le paludisme tue environ 435 000 personnes en Afrique chaque année, dont la plupart sont des enfants de moins de 5 ans.
We know through clinical trials that were done between 2009 and 2013 that this vaccine can reduce malaria by 40% and can reduce life-threatening malaria by almost 30%. What we're finding out through these pilots is how does this vaccine work in the real world and how many cases of malaria will be prevented, how many deaths will be prevented. With this level of efficacy, we expect that there will be tens of thousands of lives saved.
13h10, direction la France maintenant, épilogue dans le procès du maire de Levallois-Perret. Patrick Balkany dort en prison. Il a été condamné à 4 ans, sa femme à 3. Elle ne sera pas incarcérée au vu de son état de santé. Le récit de ce procès avec Laure Martel.
Patrick Balkany n'est pas sorti de l'audience menottes au poignet, mais c'est bien vers la prison de la santé qu'il a été emmené, encadré par deux policiers. Même s'il a clairement accusé le coup à l'énoncé du jugement, c'est lui qui a tenté de réconforter son épouse au bord des larmes. Le tribunal a estimé que la fraude fiscale des Balkany était avérée et qu'elle avait gravement porté atteinte à l'ordre public économique en privant l'État de sommes importantes, estimées à plus de 4 millions d'euros. Un comportement d'autant plus intolérable, a martelé le juge, qu'il émane d'élus et occasionne donc un lourd dommage à la confiance du public en ses représentants. représentant. À ce titre, il doit recevoir une réponse pénale particulièrement ferme et dissuasive, a-t-il conclu. Sur l'incarcération immédiate, le tribunal a indiqué que Patrick Balkany avait encore des avoirs à l'étranger et pouvait donc tenter de se soustraire à la justice. Une humiliation inutile a fustigé son avocat, Maître Dupont-Moretti.
Dans des affaires, si vous avez la curiosité d'aller regarder, avec des montants fraudés nettement supérieurs, on n'a pas envisagé le mandat de dépôt. Voilà, Balkany a été jugé au pied du mur de l'exemple et la justice rendue au pied du mur de l'exemple, c'est rarement une bonne justice.
Les époux ont également écopé de 10 ans d'inéligibilité. Ils vont interjeter appel.
Et c'était Laure Martel pour RFI. Les autorités entre la France et la Suisse ont procédé hier à un exercice de catastrophe ferroviaire près de Genève. Un scénario d'une ampleur inédite. Près d'un millier de figurants y participaient et presque autant de personnel de secours. Test grandeur nature donc pour le Léman Express, le plus grand réseau ferroviaire transfrontière au monde. Reportage Jérémy Tranche.
J'étais en train d'aller à l'école. Il y avait un bruit très très fort. Ça a été tout sombre. Il y a des personnes en train de crier autour de moi. Ça a été horrible.
Comme Anna, ils sont plusieurs dizaines de blessés assis sur le macadam à attendre d'être pris en charge. Certains ont les vêtements tachés de faux sang. D'autres ont carrément des os en polystyrène apparent pour simuler des fractures. Rien n'est laissé au hasard.
Ça va, monsieur, vous arrivez à ouvrir la bouche ?
On va tous lever en même temps, ok ? Alors, à 3, 1, 2, 3, on lève. Ok, super, ça a bloqué.
Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Il a été éjecté, il a eu un trauma des deux membres supérieurs, des fractures ouvertes, et puis probablement un traumatisme crânio-cérébral sévère. On va aller voir là-bas pour voir la suite de la prise en charge.
C'est le plus gros exercice de sécurité civile jamais réalisé en Suisse et peut-être en France également. Il est à la mesure du Léman Express, 230 km de voies ferrées à cheval entre les deux pays, 45 gares réparties sur un territoire qui compte 1 million d'habitants. Philippe Zimmermann supervise les opérations.
C'est un exercice qui est énorme. On ne se contente pas de jouer que le front et les secours. On joue l'enquête judiciaire, on joue l'enquête technique, on joue l'accueil aux familles. Nous avons focalisé cet exercice sur la coopération binationale, c'est tout l'enjeu et c'est toute la difficulté.
Au moins 50 000 voyageurs sont attendus chaque jour sur les lignes du Léman Express. C'est à peu près le trafic enregistré à Paris par la gare de Lyon une veille de Noël.
Et 13h13 en sport, on commence avec du NRL. Les Sydney Roosters, champions en titre, eh bien, ont fait une belle entrée dans la section des finales. Ils ont ouvert leur série en battant eh bien leur rivaux South Sydney 30-6. C'était hier soir à Sydney. L'entraîneur des Roosters, Trent Robinson, dit qu'il est fier de la façon dont ses joueurs se sont préparés au match, mais que son travail est de les rendre encore meilleurs. On l'écoute.
There's two parts to it. I think you go. You're really proud of the way that they worked this week to execute some of those things that they did. You know, their ability to take things on board and then execute them is outstanding. And then there's that continual search for better. That's my job is, along with our staff, is to provide improvement and to get more out of our players.
Voilà, donc Trent Robinson en AFL maintenant. Il y aura un nouveau champion cette année, c'est sûr. Les tenants du titre, les West Coast Eagles, ont été éliminés de la compétition. C'était en demi-finale hier contre Geelong. Ça se passait à Melbourne au MCG. Geelong a marqué 4 buts contre rien dans le dernier quart du match. C'était donc pour battre les Eagles 88-68. Ils ont donc réservé leur place dans le duel du week-end prochain contre les champions de 2017, Richmond. Le vainqueur de ce match se qualifiera donc pour la grande finale. On écoute l'entraîneur de Geelong, Chris Scott. Il a déclaré que son équipe s'était améliorée tout au cours de l'année. On l'écoute.
Our players, from where we were 12 months ago, have come a long way. And we're far from a perfect team. But when we play our way, we're a good chance. So that's the most, probably the most pleasing thing. One, the outcome, which is obvious, and we get a chance next week. But two, we played a little bit more consistently the way we would like to play.
Voilà donc Chris Scott, l'entraîneur de Geelong. Coup d'œil météo pour aujourd'hui. À Perth, il fera 25 degrés. Adelaide, 25. Melbourne, 19. Hobart, 18. Canberra, 22. Sydney, 21. Brisbane, 29. Cairns, 29. Et Darwin, 32 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité donc pour aujourd'hui. Grève de grande ampleur à Paris. Près de 400 km de bouchons autour de la capitale. Les personnels de la RATP protestent contre la réforme des retraites. Incendie toujours dans le Queensland, même s'il y a une accalmie. La semaine prochaine s'annonce difficile. Et en France encore, les époux Balkany condamnés à de la prison pour fraude fiscale. 13h15, courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour le journal des sports.
Vous aimez le programme en français ?
continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.